Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de cette session d'actualité, clôture ce week-end de la mission des 5 chefs d'état-major généraux des pays membres de la SADC et du Burundi dans le Nord Kivu. Après 2 jours de travail, ils se disent déterminés à imposer la paix dans la zone affectée par l'activisme de la rébellion du M23. Pendant ces temps, le gouverneur militaire du Nord Kivu a annoncé hier samedi la réduction des frais de participation à l'examen d'état de cette année à 5 000 francs congolais à la place de 130 000 prévus initialement. L'invité de ce journal, c'est Léonard Kambale, chef d'antenne du programme de promotion des soins de santé primaire dans la Tchopo. Il revient sur l'intervention urgente de l'UNICEF en eau, hygiène et assainissement en faveur des déplacés du conflit Mbole-Lengola à Lubunga. Bonjour à tous. Ce journal part du Nord Kivu, où les chefs des forces de défense de 4 pays, membres de la SADC et du Burundi, annoncent leur détermination à imposer la paix dans la zone affectée par l'activisme de la rébellion du M23. Les chefs d'état-major généraux des FRDC, de l'Afrique du Sud, du Malawi, de la Tanzanie et du Burundi ont clôturé samedi une mission de 3 jours à Goma. Le but de la rencontre était d'évaluer les opérations conjointes en cours dans le cadre de la mission de la SADC en RDC. Plus de détails avec vous, Bernardin Nyangui.
À l'issue des 2 jours de travaux, vendredi et samedi, les 5 chefs d'état-major généraux ont promis, entre autres, de renforcer les troupes de la mission de la SADC engagées aux côtés des troupes burundaises et des FARDC contre la rébellion du 1-23. Ils ont aussi mis en place des stratégies pour imposer la paix dans la région. C'est ce qu'a déclaré devant la presse le porte-parole militaire des FARDC au sortir de ces rencontres, le général-major Sylvain Kengé.
Il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer. Pour faire l'état des lieux de la situation, ils se sont rendus à Mobambiro. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale.
Arrivé jeudi à Goma, les délégations des chefs de forces de défense des pays contributeurs de troupes de la SAMI-RDC, notamment l'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie, en présence des chefs d'état-major généraux des FARDC et du Burundi, ont clôturé samedi leur visite de travail à Goma. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Kapi.
Cependant, à Ituri, un militaire FRDC a été tué et 2 miliciens abattus lors d'un accrochage ce week-end entre 2 miliciens Codeco et les forces loyalistes à Zouda, dans les territoires de Djougou. Des sources sur place rapportent que ces assaillants étaient venus attaquer les marchés de Zouda situés à 24 km de Djougou centre. Des casques bleus déployés dans la zone pour y effectuer des patrouilles ont à leur tour essuyé des tirs de ces miliciens. D'autres renforts des soldats de la MONUSCO ont été dépêchés en vue de sécuriser les bases de la MONUSCO où se trouvent des milliers de personnes déplacées. Jean-Claude Lokidile nous fait le point.
Aux environs de 13h30, la base de la MONUSCO, dont la zone reçoit une première alerte de la présence des miliciens au marché de Zouda, où des tirs d'armes à feu étaient entendus. Aussitôt, une patrouille des casquets bleus se dirige vers ce village. Chemin faisant, les soldats de la paix se heurtent à une présence des miliciens qui ouvrent le feu contre eux. Les militaires de la MONUSCO ripostent avant de recevoir du renfort pour faire face à l'ennemi. Pendant ce temps, les assaillants avaient déjà tué un soldat des FADC à partant des sources concordantes. Plus d'une heure après, une autre patrouille de la MONUSCO qui se dirige cette fois vers le village Okapi tombe dans une nouvelle embuscade de ces mêmes rebelles. L'échange de tirs entre les deux parties va durer près d'une heure. Au moins 2 éléments de la Codeco auraient été tués au cours des affrontements. Bien que le milice soit retiré de la zone, la MONUSCO a continué à effectuer des patrouilles de domination pour s'assurer que toutes ses bases sont sécurisées et restées en état d'alerte. Dans le but de prévenir d'éventuelles attaques de la Codeco contre les sites de personnes déplacées pendant la nuit. Bounia, Jean-Claude Lequier, Dile, Radio Kapi.
Restons en Ituri pour dire que la vie a repris normalement au centre des négoces d'Amé dans la chefferie des Djoukot en territoire des Mahagi. C'est à la suite d'accalmie observée dans cette entité coutumière plusieurs fois la cible des attaques des assaillants des Codeco, ce qui a permis à des milliers de familles qui avaient fui l'insécurité depuis 2021 de regagner leur milieu pour mener une vie normale. Écoles, marchés et d'autres activités fonctionnent à nouveau. Retrouvons sur place notre envoyé spécial Martial Kizabiamungu.
Il est midi, le centre de Amé est envahi de centaines de personnes. Hommes, femmes et enfants se bousculent pour s'effrayer les passages ces jours de marché. Il y a quelques mois, ces centres de négoce étaient une cité fantôme. Cela après des attaques à répétition de la milice Codeco, ce qui avait entraîné le déplacement de ses habitants qui avaient fui vers d'autres entités sécurisées. Aujourd'hui, Amé devient vivable.
Actuellement, on voit que vraiment notre centre d'Amé commence à être habité. Déjà.
La présence renforcée de l'armée et de la police dans cette entité qui partage la limite avec le territoire du Djougou rassure de plus la population. Cependant, elle souhaite que cette accalmie soit pérennisée pour permettre le retour définitif d'une durable paix. Emmanuel Onine Obergiou est le président de la société civile de Amé.
Nous souhaitons à ce que la paix revienne parce qu'on solliciterait de renforcer la sécurité de la part des FRDC. Tout comme les nids territoriales.
Les autorités coutumières encouragent d'autres familles qui vivent encore en déplacement de regagner leur village pour contribuer au développement socio-économique de cette contrée ruinée par les violences armées. Depuis Amé, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Repartons au Nord Kivu pour parler cette fois de frais de participation à l'examen d'État de cette année qui sont désormais rabattus à 5 000 francs congolais, a annoncé samedi le gouverneur général Major Peter Sirimwami. La mesure devrait modifier l'arrêté du 12 février dernier qui fixait ses frais à 130 000 francs congolais par élève finaliste, soit environ 50 dollars américains. Cette nouvelle disposition a été annoncée lors d'un tête-à-tête à Goma entre la coordination provinciale de la société civile et l'exécutif provincial. Encore une fois, retrouvons Bernardin Nyangui pour d'amples détails.
Le président de la coordination provinciale de la société civile et forces vives dit se réjouir de cette étape franchie dans le plaidoyer pour les allègements de frais en faveur des familles sinistrées du Nord Kivu. John Banyene.
De 130 000 à 100 000 francs, je crois que c'est un ouf de soulagement pour cette population dans une situation de guerre. Je crois que avec cet allègement, l'autorité provinciale est en train de comprendre la souffrance de cette population. Il nous a rassuré qu'il y a encore des plaidoyers qui sont en cours. Pour nous, en tant que paras, nous disons d'abord merci à l'autorité provinciale et à tous les paras de s'apprêter pour que nos enfants puissent passer les épreuves des examens d'État dans de bonnes conditions.
Au-delà de ce cas général relatif aux frais de participation aux ex-États 2024, le gouverneur militaire Peter Sirimwami annonce que les discussions vont continuer avec les autorités de l'EPST à Kinshasa pour trouver une exonération en faveur des élèves finalistes déplacés de guerre. Du fait, selon lui, qu'il appartient au gouvernement central de prendre une telle décision en cette période où la province est en difficulté. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Okapi.
Direction Kasaï Oriental, où 50% d'enfants sur plus de 6 000 ayant dépassé l'âge scolaire poursuivent la formation dans certains centres de rattrapage scolaire de proximité des Mbujimayi, Katanda, Tshilenge et Lupatapata. Cependant, d'autres enfants traînent encore les pieds. Cette inquiétude a été présentée jeudi dernier au cours de l'atelier d'évaluation de la campagne d'identification et d'orientation de ces enfants. Ces travaux d'un jour ont été organisés par la Division provinciale des affaires sociales et la division provinciale de l'EPST avec l'appui financier de l'agence belge de développement Enabel. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le rattrapage scolaire de ces enfants ayant dépassé l'âge scolaire rentre dans le cadre du projet intitulé « Intervention et éducation de base » implémenté au Kasaï Oriental pour une durée de 5 ans par l'agence belge de développement Enabel. Il a pour but d'améliorer l'accès, la rétention et l'achèvement d'une éducation de 8 ans pour tous. Le chef de division provinciale des affaires sociales affirme que son service et la division provinciale de l'EPST ont identifié plus de 6 000 enfants ayant dépassé l'âge scolaire. 3020 enfants ont été identifiés en Boujimaï et 3600 ont été trouvés dans les sous-divisions de l'EPST de Katanda, de Chilenge et de Lupatapata. Malgré les conditions mises à leur disposition au niveau des trois réseaux des centres de rattrapage scolaire de proximité appuyés par Enabel, le constat reste amer. C'est-à-dire 50% de ces enfants ne se rendent pas dans les centres de rattrapage scolaire. Pour les retourner sur le chemin de l'école, quelques recommandations ont été formulées au cours de l'atelier de jeudi dernier, entre autres la remise d'un petit cash aux parents pour les activités génératrices des revenus, la sensibilisation des parents à travers les médias et l'ouverture des cantines scolaires. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le président Félix-Antoine Tshisekedi participe au troisième forum diplomatique d'Antalya en Turquie depuis le 1er mars dernier. Ces assises sont organisées par le ministère des Affaires étrangères de la République de la Turquie sous les auspices de président turc Recep Tayyip Erdogan. Selon une dépêche de la présidence de la République démocratique du Congo parvenue à Radio Okapi ce dimanche, Félix Tshisekedi a rencontré en marge de ces assises les groupes Al-Bayrak, un opérateur économique turc. Paul Matendo pour plus de détails.
Selon cette dépêche, au cours de cette troisième édition, les discussions sont axées sur les thèmes « Faire progresser la diplomatie en période de troubles ». Il est question donc de réfléchir sur le voie de sortie pacifique de la période des turbulences que traverse le monde. Guerre, terrorisme, changement climatique et autres pandémies, précise la même source. Parmi les participants figurent des chefs d'État et de gouvernement. Pour ce qui les concerne, Félix-Antoine Tshisekedi a échangé ce samedi 2 mars à marge de ce forum avec une délégation du groupe turc Al-Bayrak, expert en construction, transport public, gestion des déchets et immobilier, rapporte cette dépêche. Un entretien qui a tourné autour de l'assainissement public de la ville de Kinshasa par cet opérateur économique. Selon notre source, Ahmed Al-Bayrak, président de ce groupe, a déclaré, je cite, « Nous avons commencé les études et les équipements dont 70 véhicules sont déjà sur place. Nous avons aussi envoyé 2000 containers de ramassage de déchets qui arrivent dans 2 semaines. Dans 20 jours, nous lançons l'assainissement. » Fin de citation. Dans son agenda, Félix-Antoine Tshisekedi prévoit de rencontrer également d'autres investisseurs turcs, souligne notre source.
Et puis, la deuxième phase de la campagne de traitement de l'ulcère de Bourouli, communément appelée Mbassou, se tiendra ici à Kinshasa, à la polyclinique Kairis ou Charité à Ma Campagne du 6 au 20 mars prochain. C'est ce que vient d'annoncer dans une déclaration à la presse le docteur Jean-Paul Lembelembe, expert des plaies évoluant en France. Selon lui, l'objectif pour cette deuxième campagne est d'apporter des nouvelles techniques de prise en charge en faisant recours à la greffe, notamment les remplacements de la peau. Les propos du docteur Jean-Paul Lembelembe ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Cette deuxième phase vise à consolider ce qu'on avait déjà démarré lors de la première phase au courant du mois de décembre dernier, avec comme objectif de sensibiliser aussi bien les patients porteurs de cette pathologie difficile qu'est le Mbassou, et de sensibiliser aussi les professionnels de santé. Les résultats que nous avons obtenus lors de cette première campagne sont très encourageants. Et donc, dans cette deuxième campagne, nous allons continuer avec de l'innovation en proposant de nouvelles techniques de prise en charge, notamment la formation aux greffes pour les médecins qui suivent ces patients. Nous avons également sensibilisé à la détection de la pathologie phare de Mbassou en encourageant les patients à se faire diagnostiquer le plus précocement possible. Nous proposerons également d'autres techniques comme la thérapie à pression négative dont nous souhaitons faire bénéficier les patients du pays.
Parlons à présent de cette analyse sur les mariages précoces en RDC. On penserait que le phénomène est révolu, mais non. Il a apparemment la peau dure. Il y a quelques semaines, un pasteur a défrayé la chronique en ce sens. Il n'est pas le seul. D'autres le font, mais cela passe souvent inaperçu. Qu'est-ce que les mariages précoces? Que dit la loi à ce sujet? Quelles conséquences pour la fille? Réponse dans ce reportage signé Marie-France Mungindu.
Le mariage précoce est un acte qui consiste à donner ou à prendre en mariage une personne qui n'a pas encore atteint l'âge majeur. Ce type de mariage est condamné par la loi en RDC et dans plusieurs pays. Maître Etienne Kapita, avocat au barreau de Kinshasa, Matete.
Que toute personne qui exerce l'autorité parentale ou tutélaire sur un enfant le donne en mariage ou en vue de celui-ci ou le contraint de se marier est puni d'une peine de 5 à 12 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 800 000 à 1 million de francs congolais.
Yves Tchabouila, médecin traitant à l'hôpital de Kinshasa, nous parle des conséquences de ce type de mariage sur la santé de la fille.
D'un point de vue médical, le mariage précoce a plusieurs désavantages pour le conjoint qui n'a pas encore atteint sa maturité tant physique que psychologique. Ce conjoint non mature, qui pour la plupart des cas est une jeune fille de 13 à 18 ans, qui est encore en pleine croissance et a encore un bassin maternel et une matrice utérine pas assez bien développée pour accueillir pendant presque 9 mois et permettre un accouchement d'un bébé qui normalement devra peser 2 à 3 kilos en moyenne.
Selon les sociologues, la pauvreté, les croyances, les normes sociales sont parmi les causes de mariage précoce en RDC.
Actualité internationale. La justice camerounaise a déclaré la fin de l'information judiciaire sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo vendredi. Cette annonce du tribunal militaire de Yaoundé intervient un peu plus d'un an après la mort de l'ancien directeur de la radio Amplitude FM. Elle signifie que le procès s'ouvrira dans les prochaines semaines. La date du procès pour meurtre de Martinez Zogo n'est pas encore fixée.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, l'UNICEF apporte une réponse d'urgence en eau, hygiène et assainissement en faveur des déplacés du conflit Mbole-Lengola, installés aux alentours de la paroisse Sainte-Marthe de Lubunga. Cette agence onusienne a financé des ouvrages construits par l'ONG Programme de promotion des soins de santé primaire, PPSSP. Quels sont ces ouvrages? Comment fonctionnent-ils? Et quel en est le coût? L'ingénieur Léonard Kambale, chef d'antenne de PPSSP, explique dans cet entretien avec Jacques Mkonkole.
Léonard Kambale, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous décrire les ouvrages que vous avez réalisés au profit des déplacés ainsi que la communauté de Lubunga?
Avec l'effort de l'UNICEF, nous avons réalisé des ouvrages dans la composante eau, hygiène, assainissement. Donc il y a des ouvrages qui sont spécifiques pour la composante eau, d'autres qui le sont pour la composante assainissement et d'autres pour la composante hygiène. Pour la composante eau, nous avons aménagé, nous avons construit un forage fonctionnant avec le système photovoltaïque. Donc nous avons la pompe, nous avons le panneau solaire et nous avons une cabine de commande pour ça. Alors, quand la pompe approvisionne le tank, nous avons un tank de 20 mètres cubes qui est approvisionné par pompe solaire à partir du forage. Alors, la pompe amène l'eau à hauteur. Et à partir de là, le réservoir plein, l'eau est redistribuée.
Le redistribuer où exactement?
Voilà, donc nous redistribuons aux bénéficiaires.
Qui sont ces bénéficiaires?
Les bénéficiaires de cette eau, il y en a de trois sortes, même quatre. Premièrement, sont les déplacés du site Sainte-Marthe. Il y a une borne fontaine qui est au site et l'eau quitte le réservoir qui est ici au niveau de SNCC vers le site Sainte-Marthe. Le deuxième bénéficiaire sont les écoliers de l'école primaire Lualaba. Là, il y a aussi une autre borne fontaine. Troisième bénéficiaire, c'est la communauté. Il y a une autre borne fontaine pour ça. Et quatrième bénéficiaire, c'est l'hôpital même de SNCC qui a aussi une borne fontaine. Et l'eau arrive là-bas par gravitation, moyennant une mini-addiction que nous avons mise à place pour la cause.
Là, vous avez parlé de l'eau, de la distribution de l'eau aux bénéficiaires. Alors, par rapport à l'assainissement, qu'est-ce qui a été fait?
Par rapport à l'aspect assainissement, là, nous sommes intervenus spécialement au niveau du site Sainte-Marthe. Nous avons construit 8 portes de latrine, dont 4 pour femmes et 4 pour hommes. Et nous avons aussi aménagé 2 trous à ordures pour la gestion des déchets ménagers. Je vais ajouter qu'il y a aussi les ouvrages de composantes hygiène. Et là, ce sont des douches 8 portes aussi, 4 pour hommes et 4 pour femmes. Et dans la même composante d'hygiène, il y a aussi les dispositifs de lavage des mains qui ont été donnés aux déplacés.
En combien de temps vous avez réalisé ces ouvrages ?
Les ouvrages, nous les avons réalisés en un mois. Comme c'est un projet d'urgence, il y a seulement un mois qui nous a été donné pour ça. Et c'est ce qui a été fait.
Ah, si ce n'est pas un secret, on peut en savoir le coût ?
Oui, le coût de ce projet était de ces 4 000 dollars.
Maintenant que ces ouvrages ont été réalisés, il y a un problème qui se pose, c'est la maintenance. Comment cela va-t-il se faire ?
Bon, justement, pour l'aspect maintenance et pour assurer la pérennisation des 10 ouvrages, nous avons initié un comité de gestion de ces ouvrages. Un comité conjoint constitué d'une part avec les éléments de l'hôpital, d'autre part l'école et les sites, les déplacés eux-mêmes et le chef de quartier Colouézi. Donc, ils vont constituer un groupe conjoint pour la gestion des ouvrages. Et pour se rassurer que des éventuelles réparations pourront être possibles, le puisage de l'eau pourra être conditionné par un paiement. Et à puisant, on va fixer un prix conventionnel qui sera fixé pour chaque puisage et un montant pourra être capitalisé pour la cause. Et en cas d'éventuelles réparations, on pourra recourir à cette caisse-là.
Ingénieur Léonard Kambalé, pouvez-vous rassurer les bénéficiaires de la potabilité de cette eau que vous venez de mettre à leur disposition?
Ok, merci beaucoup pour la question qui est intéressante. Je vais vous rassurer que l'eau est potable. Et sur quelle base je vais le faire? Avant d'autoriser la consommation de cette eau, nous avons procédé à une analyse bactériologique au laboratoire de faculté des sciences. La faculté des sciences a analysé les différents paramètres de l'eau et à conclusion, ils ont dit que l'eau est bonne pour la consommation. Et donc, c'est une eau potable certifiée par le laboratoire de faculté des sciences de l'UNIKIS.
Ingénieur, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Radio Kapi. Sa mise en onde était assurée par Pierre Diassinois sous la supervision et coordination de Jacques-Yves Molima. À la présentation, Patience Ngalula Banangé. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Radio Kapi.